Riviera Ferraille.
Bonsoir et bienvenue dans les best-of du Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et nous sommes toujours en vacances, mais nous sommes toujours avec vous. On continue de vous accompagner durant l'été en vous proposant le meilleur des histoires de notre première saison.
Et cette semaine, nous allons vous présenter les pires destinations de vacances. Et pour notre première destination, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Lyon, dans un hôtel très étrange.
Les fantômes de l'hôtel Terminus. Les Lyonnais connaissent Perrache aujourd'hui, et pas que pour des bonnes raisons. On a un bel échangeur autoroutier qui traverse l'endroit. La gare Perrache en elle-même est, disons-le, plutôt dégueulasse à l'œil, avec son gros parking hors sol. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, puisque je vais vous parler aujourd'hui de l'hôtel Château Perrache, alors nommé Hôtel Terminus. Qui était construit entre 1902 et 1906 et qui a eu un passé de bel hôtel. C'était un grand lieu de réception, vraiment très luxueux, d'ailleurs classé monument historique, avant d'être racheté par accord en 1997 et de devenir, si je dis pas de bêtises, l'hôtel Mercure qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un bel hôtel en apparence, mais c'est beaucoup plus glauque à l'intérieur, puisque celui-ci a notamment servi pendant la Seconde Guerre mondiale de QG à la Gestapo lyonnaise. Mmh. Alors là, c'est partie historique pas rigolote, hein, puisque dans cet hôtel Terminus, notamment, des interrogatoires ont été menés, ainsi que des actes de torture. Et l'hôtel était aussi idéalement situé pour les nazis, puisque à côté d'une gare, ferroviaire, donc d'où partaient les trains qui servaient à la déportation.
Ah, d'où le nom d'hôtel Terminus.
Si voilà, à l'époque, il n'est pas impossible qu'à l'époque, la gare Perrache était un terminus. C'est-à-dire que maintenant, ça continue vers le sud, mais il n'est pas impossible qu'à l'époque, c'était un terminus. Et donc cet hôtel, qui était le siège de la Gestapo lyonnaise, a notamment vu passer Klaus Barbie. Et là, on se dit que rien que ça, déjà, les murs ont dû être hantés à tout jamais. Donc il a été reconnu coupable, hein, pour ceux qui ne le savent pas, de crimes contre l'humanité au tribunal de Lyon, et qui en plus d'ordonner des exécutions à Auschwitz, a torturé notamment beaucoup de personnes de la région lyonnaise. La suite de l'histoire a été racontée dans un post de blog que j'ai découvert à cette occasion, qui s'appelle « L'hôtesse de l'air ». Et qui est tenue donc par une vraie hôtesse de l'air, hein, qui raconte sa vie, qui est faite de voyages, et les avantages aussi, hein, les inconvénients, mais les avantages aussi qui vont avec, hein, comme celui de dormir dans une très grande quantité de beaux hôtels. Et elle explique que contrairement à ses collègues, qui parfois peuvent être un peu difficiles, hein, parce que bon, quand t'as l'habitude de dormir dans des hôtels de luxe et que tu sais que dans telle destination tu dors forcément dans un hôtel pas top, t'évites la destination, voilà, tu deviens un peu difficile. Hein. Elle a pas forcément de liste noire d'hôtels qu'elle veut absolument éviter, elle est plutôt, on lui paye l'hôtel, elle est déjà contente. Enfin, je dis ça, mais pas tout à fait, puisque elle a pas de liste noire, sauf pour l'hôtel Terminus. Elle refuse catégoriquement d'aller dormir à cet hôtel, et c'est le seul hôtel dans lequel elle refuse d'aller dormir. Elle explique qu'entre agents de bord, en fait, il y a beaucoup de petits conseils et de rumeurs, hein, forcément, qui circulent sur les voyages, la qualité des lieux de villégiature. Et elle a notamment discuté avec un agent de bord qui a dormi plusieurs nuits à l'hôtel Terminus et qui a raconté des histoires tout à fait étranges. Déjà, premier élément, les tableaux, donc les peintures encadrées de la chambre dans laquelle dormait l'agent de bord, elle m'était plutôt mal à l'aise, puisque des personnes y sont représentées, mais c'est-à-dire que c'est des portraits, des personnes soit dans leur entièreté, soit avec un cadrage un peu plus serré, mais la totalité des tableaux de la chambre regarde vers le centre. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être observé par les tableaux. C'est pas des scènes de paysages, des personnages qui se regardent entre eux. C'est que des portraits de face.
C'est pas très feng shui comme ambiance
pour
dormir.
Je suis assez d'accord. Il y a déjà un petit potentiel angoissant rien qu'à avoir des tableaux comme ça. Et ensuite...
D'ailleurs, si je peux me permettre une petite intervention là-dessus. Je disais, c'est pas feng shui ce genre d'ambiance. C'est... Je suis très sérieux en disant ça. Il y a beaucoup de lieux qu'on pense hantés, dans lesquels on a une sensation de malaise. C'est ce qui caractérise généralement les lieux qu'on pense hantés, justement à cause de l'agencement de la pièce.
Ouais,
c'est le cas notamment dans le château dont on parle énormément sur YouTube et un petit peu partout, le fameux château de Fougeray qui serait hanté, où on peut passer une nuit et où voilà, le lieu serait hanté. La sensation de malaise vient énormément de la manière dont sont agencer les chambres. Il y avait eu un épisode d'une émission, c'était je crois la meilleure maison d'hôtes de France, ou je ne sais quoi, où parmi le jury, dans le jury, il y avait Mac Lesguy, entre autres, et une décoratrice d'intérieur. Cette décoratrice d'intérieur disait ça. Elle disait en fait, oui, enfin, vous dites que c'est un hôtel hanté, mais en même temps, vu la manière dont la chambre est agencée, on a forcément une sensation d'inconfort et une sensation de malaise, quoi.
Et ouais.
Et je pense que voilà, c'est ce qui explique beaucoup de lieux qu'on dit hanté, mais voilà, je te laisse revenir sur ta chambre mal agencée de l'hôtel à Lyon.
Bah surtout les tableaux. La chambre, elle est classique dans son architecture, mais c'est surtout les tableaux qui mettent mal à l'aise. Mais surtout, ça va un petit peu plus loin que ça, puisque durant sa première nuit passée à l'hôtel, la personne va entendre des bruits, et pas n'importe quel bruit, elle va entendre des grattements sur le mur, mais qui proviennent de la chambre d'à côté, enfin de ce qu'elle pense être la chambre d'à côté. Donc ça l'empêche de dormir, elle passe une très mauvaise nuit, et du coup le lendemain, elle va à la réception et elle demande si c'est pas possible de dire à sa voisine de chambre de faire moins de bruit. Sauf que là, la réception lui répond un truc assez étrange, qu'elle n'avait pas de voisine la nuit dernière, puisque sa chambre est en fait la dernière de l'étage et qu'il n'y a pas de mur mitoyen avec une autre chambre, et qu'en plus, les autres chambres étaient inoccupées. Donc là, elle trouve ça un peu bizarre, d'autant que le réceptionniste lui dit ça sur un ton très calme. Genre, il relève pas que ça puisse être un truc bizarre, qu'elle entende des grattements. Et donc, deuxième nuit, même problème. Des bruits de grattements. Et elle arrive à distinguer un peu, elle entend comme des ongles qui déchirent en fait la tapisserie qu'il y a sur les murs. Et elle arrive à localiser le bruit, et ces bruits viennent de derrière une peinture qui est accrochée au mur. Le lendemain, elle croise un autre agent de bord qui lui explique que toutes les rumeurs du coup qui tournent autour de l'hôtel, et il conseille un truc, et j'ai vraiment lu ça sur le poste de blog, hein, qui lui conseille littéralement de hurler haut et fort dans sa chambre « Laissez-moi tranquille, partez ». Et ben le soir venu, elle réentend des bruits, elle s'exécute, elle crie dans sa chambre, et apparemment les bruits auraient cessé. Il y a d'autres petites... Ouais,
donc on est sur des fantômes obéissants. Donc.
Ouais voilà, on est sur des... Oui ça va, on est sur un fantôme qui écoute quand on lui parle. Il y a d'autres petites histoires qui ont continué à hanter ces lieux. Et notamment, tout aussi perturbant, un autre agent de bord qui s'est vu réveiller en pleine nuit parce qu'il avait la sensation qu'on tirait les draps au niveau de ses pieds. Et un autre qui a pris peur à cause d'une silhouette qu'il fixait à travers la fenêtre. Tout ça a cessé au moment où l'hôtel aurait décidé de retirer les peintures accrochées au mur. J'ai une hypothèse, avant de conclure sur cette histoire. C'est que Lyon, comme beaucoup de grandes villes européennes à l'époque, a connu plusieurs invasions de rats, tout simplement. Et que les bruits de grattement qui étaient entendus, et le fait qu'un bruit, un hurlement les fasse cesser, rend assez plausible l'hypothèse de rats qui grattaient. Et que il y a une légende urbaine qui s'est développée autour de cet hôtel, hein, qui est relativement connue. Je l'ai vu relayer en tout cas sur plusieurs posts de blog qui traitent de la région lyonnaise. Et d'autant plus que l'histoire se termine doublement dans la mesure où il y a eu des grands travaux de restauration en 2015 qui ont grandement modernisé l'intérieur de l'hôtel. Donc l'intérieur de l'hôtel a grandement changé. Pas tout, parce que comme j'ai dit au début, il est classé. Donc par exemple, la façade ne peut pas être touchée et certaines pièces à l'intérieur ne peuvent pas être touchées. Mais la partie, disons, d'accueil des visiteurs était grandement modernisée après 4 mois de travaux en 2015. Donc je pense que en dehors, disons, des rats, et évidemment du passé de l'hôtel, puisque c'est ça, c'est de là que partent les légendes urbaines, c'est le passé de QG de la Gestapo et de potentielle torture et même potentiel meurtre, même s'il n'y a pas de traces d'archives de ce cas-là, qui alimente une belle légende urbaine sur un hôtel, un ancien hôtel luxueux du centre lyonnais.
Bah écoute, je trouve qu'il y a quand même un beau degré de mystère sur cette histoire. En revanche, je me pose une question sur l'affaire en elle-même. Mmh. C'est la même chose sur énormément d'histoires dont on parle ici. Hein. C'est le témoignage, la source, ouais, d'où ça vient. J'imagine que cette hôtesse de l'air est la seule à raconter cette histoire.
Alors, c'est la seule à en être la source.
Ouais.
Ce qu'elle dit a été repris à différents endroits. Mais comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui lui a raconté avoir vécu ça.
D'accord, donc on est potentiellement sur une légende urbaine, en fait.
Ah oui.
C'est pour ça que j'ai du mal à l'imaginer comme un vrai mystère encore à creuser, etc. Pour moi, enfin, ma conclusion, c'est qu'on est sur une légende urbaine et je crois beaucoup à ton explication des rats.
Ouais, bah je pense que en tout cas pour le bruit de grattement, après ce qui entoure bon, les tableaux, ça peut être malaisant, ça.
Oui, comme je disais tout à l'heure, là-dessus, voilà.
Ouais, voilà. C'est assez malaisant, mais les bruits, d'autant que en plus la ville de Lyon a connu à différents moments de son histoire, hein, l'histoire ancienne mais aussi l'histoire beaucoup plus récente, des vraies invasions de rats. Donc ça me semble absolument pas improbable, surtout que Perrache et le cours Verdun, et voilà, c'est vraiment de la grande ville avec, comme je disais, de l'échangeur autoroutier, beaucoup de petits canaux souterrains, beaucoup de choses comme ça, et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il y ait des rats dans l'hôtel qui, à un moment donné, surtout s'il n'y a pas de mur mitoyen, qui se glisse soit dans les canalisations, soit simplement dans les trous qu'il y a à l'intérieur des murs, dans les espaces qu'il y a dans les murs.
Bah écoute, si jamais tu as l'occasion d'aller dormir dans cet hôtel, j'aimerais bien avoir ton expertise là-dessus.
Bah écoute, en plus, je passe souvent devant, donc...
Ou si nos auditrices et nos auditeurs qui sont à Lyon ou qui prévoient de passer à Lyon, d'ailleurs, passer à Lyon, c'est très sympa comme ville, prévoit de trouver un hôtel, bah si vous restez par là-bas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez entendu les fantômes de l'hôtel Terminus. L'hôtel Terminus, c'est vraiment très sympa, mais bon, ouais. Moi on n'y est toujours pas allé, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même.
Ah ouais, bah je suis moyennement tenté, hein, je t'avoue. Bon, d'autant que en fait ils l'ont un peu retapé, hein, depuis. Je passe devant de temps en temps. Bon, puisque je passe à Perrache de temps en temps, je passe devant, ils l'ont retapé, il est plus aussi flippant aujourd'hui.
Il n'y a pas d'aura mystique du lieu qui te donne envie d'y aller?
Bon, en dehors de l'aura mystique de la gare de Perrache, quoi, c'est... en dehors de ça, non.
Qui a une ambiance très mystique. Allez, on va rester en France pour la deuxième destination. Et je te propose de partir en route pour le phare de Thévenec qui a fait frissonner pas mal d'auditeurs cette saison.
Allez, je mets ma ceinture.
Le phare qui rend fou. Au large de la pointe du Raz, dans le Finistère, se dresse au-dessus des flots déchaînés le phare de Thévenec. Un purgatoire entre le ciel et la mer, balayé par la houle et le vent, où les fantômes et la folie se mêleraient au fracas des vagues. Alors tout d'abord, bienvenue en Bretagne. je vous emmène visiter Thévenec, qui est un des phares les plus mystérieux de la mer d'Iroise. C'est un îlot inhospitalier, situé au large de la pointe du Raz, dans le Finistère. C'est un lieu infernal. Quand la tempête se lève, les vagues passent parfois au-dessus des toits. C'est un petit bout de rocher, sur lequel il y a une petite maison phare, d'environ 9 mètres sur 7, où il y a une croix, qui a été dressée là au 19e siècle, qui a la dure mission de chasser les mauvais esprits et les fantômes que la mer transporte. En fait, à l'époque où la plupart des phares n'étaient pas encore automatiques, il existait trois types de phares. Dans le langage des gardiens de phares, en tout cas, on parlait de trois types de phares. Il y avait d'abord les paradis. Les paradis, c'était les phares qu'il y avait sur Terre. Donc on y avait plutôt la vie douce, c'est pour ça qu'on les appelait les paradis. Il y avait aussi les purgatoires, qui étaient sur une île ou sur un îlot, et les enfers, qui étaient plantés en pleine mer.
Clairement, il y a des phares qui font envie et des phares qui font moins envie.
Exactement, d'où cette classification interne chez les gardiens de phares. Et le phare de Thévenec, il est un peu spécial parce que officiellement c'est un purgatoire, parce qu'il est construit sur un petit îlot, mais dans les faits, c'est un enfer. C'est un tout petit îlot balayé par le vent en pleine mer. Et tu vas voir que l'expression enfer, ça lui convient parfaitement à ce phare. Parce que bien avant la construction du phare, Thévenec avait déjà mauvaise réputation. En fait, les légendes locales disent que c'était l'antre de ce qu'on appelle l'Ankou. L'Ankou, chez les Bretons, c'est la personnification de la mort, dans les légendes bretonnes. Il y a une explication à pourquoi est-ce qu'on disait que c'était l'antre de l'Ankou. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que quand une embarcation navigue sans moteur dans le Ratsin, donc le Ratsin, c'est ce qu'il y a donc, entre l'île de Sein et la pointe du Raz, le courant l'emporte vers le rocher de Thévenec. Et donc forcément, beaucoup de marins sont morts, emportés par le courant, et se sont échoués vers Thévenec, et c'est pour ça que le lieu a acquis cette réputation sinistre. Quoi. Et quand on entame la construction du phare en 1869, et ben forcément, il se passe des choses. On imagine peut-être des choses. En tout cas, la légende dit que les ouvriers étaient terrorisés. Il paraît que les ouvriers entendaient des choses étranges la nuit, comme des hurlements de terreur, des bruits de bagarre et même des rires déments. Ils voyaient parfois de pâles lueurs sur les rochers, et ils pensaient même assister à des phénomènes diaboliques. Comme s'il y avait des voix qui venaient des profondeurs, et qui leur disaient de fuir. Ces voix, elles leur disaient en breton « Va-t'en, va-t'en, ici, c'est ma place ». Le phare a finalement été allumé 5 ans plus tard, en 1874, et on y revoyait forcément un gardien, qui s'est retrouvé seul dans cette petite maison. Il s'est retrouvé seul à errer entre la petite cuisine, le grenier, les deux chambres minuscules de cette maison phare au milieu de nulle part. Et entre l'isolement et les histoires qui courent sur le lieu, il y a forcément de quoi devenir fou. Et bien selon la légende qui entoure Thévenec, c'est précisément ce qui s'est passé. En tout, il y a 23 gardiens qui se sont succédés en 35 ans.
Ah ouais, quand même.
On raconte qu'ils ont tous entendu des bruits étranges dans la nuit, comme des râles qui venaient des profondeurs.
Alors qu'en fait, c'était juste Nolwenn le roi.
qui était là sur une embarcation faire trimato. Non, c'était pas ça. Parce que les légendes locales disent que ce n'était pas Nolwenn le roi, mais les squelettes des naufragés, ballottés par les flots, qui demandaient une sépulture. Et en entendant les voix de ces naufragés, la plupart des gardiens seraient devenus fous. Sur les 23 gardiens qu'il y a eu en 35 ans, beaucoup ont démissionné, selon la légende. Certains y seraient morts, d'autres seraient devenus fous. Tout ça, c'est ce qui se raconte, hein, que je vous dis bien évidemment, on arrivera dans les faits un petit peu plus tard. Mais voilà ce qui se raconte en tout cas. Il paraît que Henri Guesnec, le premier gardien de phare, aurait sombré dans la folie, hanté par ces fameuses voix des esprits qu'il entendait la nuit. Alain Menou, le deuxième, aurait résisté pendant un an avant de perdre lui aussi la raison. Et quelques années plus tard, un gardien auxiliaire du nom de Millénaire serait mort sans qu'on puisse venir lui porter secours. Ses appels à l'aide auraient résonné dans le vide, écrasés dans le fracas des vagues autour du phare. Cela est très poétique.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Alexis Kerbiriou, un autre garde, serait mort, lui, dans les bras du gardien qui venait faire la relève. Un autre gardien, seul sur le phare, serait mystérieusement tombé sur un couteau. Oh. Et il se serait sectionné l'artère fémorale avant de se vider de son sang sur le rocher, seul.
Et avant de déclarer « monde de merde
». Et enfin, puisqu'il y a beaucoup de mauvaises ondes hein, autour de ce phare, un autre gardien serait mort dans les bras de sa femme, et en attendant que la relève vienne pour récupérer son corps, son épouse aurait eu la curieuse idée de vider ses entrailles et de conserver son cadavre dans du sel.
Ah oui, quelle curiosité. Elle voulait voir comment s'était fait un humain dedans.
Je ne sais pas. C'est a priori pour bien conserver le cadavre, parce que la relève dans ces cas-là n'arrive pas en quelques jours. Hein, oui. Ça met beaucoup de temps. Et des histoires comme ça, des histoires atroces, il y en a beaucoup autour de Tevenek, et il y en a eu jusqu'en 1910, l'année où l'administration a enfin décidé d'automatiser le phare. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ces histoires sont vraies ? Évidemment, c'est la question qu'on se pose. Eh bien, comme dans, j'ai envie de dire, 100% des cas, eh oui. Eh bien, je pense que je vais devoir briser vos rêves. Telles les vagues sur la falaise. C'est pas moi qui vais briser les rêves, c'est Jean-Christophe Fichou qui va briser ça. Jean-Christophe Fichou, c'est un agrégé, docteur en géographie, docteur habilité en histoire contemporaine, qui travaille à l'université de Brest et qui nous dit que tout ceci est faux. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisque dans ses sujets de recherche, il y a notamment la vie des marins et la vie des gardiens de phare. Et il a lui-même colporté cette légende dans un de ses premiers livres. Et c'est en fouillant dans les archives locales, hein, donc des différents gardiens de phare qui sont succédés à Tevenek, qu'il s'est rendu compte que la réputation du lieu se basait sur des histoires qui étaient complètement démontables. En fait, il a sorti un autre livre qui s'appelle Gardien de phare 1798-1939, bon, sur un titre de livre de personnes qui travaillent à l'université.
Clairement.
Il explique que personne n'est devenu fou sur le phare. En fait, il dit que la plupart des gardiens qui ont travaillé à Tevenek ont travaillé ensuite dans d'autres phares par la suite, ou bien qu'ils ont travaillé dans l'administration. Et c'est le cas notamment de Gesnek, qui était considéré comme le premier, mais qui en fait n'était pas le premier, c'était, je ne sais plus combien, troisième ou quatrième, ou de Menou. Ces personnes-là ont travaillé ensuite dans l'administration et dans d'autres phares, et ne sont pas du tout mortes, ou n'ont pas sombré dans la folie, comme le dit la légende. Il y a un cas, en tout cas particulier, il y a une seule personne en fait qui est morte sur le phare, officiellement. Cette personne, c'est Alexis Kerviliou, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui serait mystérieusement mort dans les bras du gardien qui venait le relever. Mais en fait, il faut savoir que ce monsieur avait déjà, avant d'arriver à Tevenek, mauvaise réputation. Il était alcoolique, il avait tendance à chercher un petit peu la bagarre, et on l'avait envoyé à Tevenek en guise de mesure disciplinaire.
D'accord, ce qu'on dit long sur le phare.
Voilà, et ce monsieur, oui, c'est ça, en fait, avant, il travaillait dans un paradis, et visiblement, ça se passait très mal, et donc on a décidé de le punir en l'envoyant à Tevenek. Et en fait, il y est mort, mais à cause, en partie, de son alcoolisme, à cause également de sa mauvaise condition physique, c'était quelqu'un qui était décrit comme assez faible physiquement. Donc il y est mort, mais c'est bien le seul, et en fait, sa mort n'a surpris personne à l'époque, puisque tout le monde se disait, ce Kerviliou, il va finir par claquer.
D'accord, oh, c'est pas sympa ça.
Donc voilà, c'est lui, il n'y a pas eu de mystère en fait autour de sa mort à l'époque. Tout le monde se disait que bon bah ouais, vu son train de vie, forcément il allait finir par mourir. Il y a eu une autre mort curieuse également d'un gardien de Tevenek, mais en fait il est pas mort à Tevenek, et encore moins dans les bras de sa femme. C'est Henri Milliner, mais en revanche lui il a eu une mort assez terrible. Il est bien mort, mais en 1911 à Quimper. Et après un terrible accident dans un autre phare, le phare d'Ecmoule, en fait, il voulait accrocher le drapeau français pour le 14 juillet. Il est tombé, et il a entraîné dans sa chute un bloc de pierre. Donc déjà pas de chance. Et encore pas de chance, le bloc lui est tombé dessus, lui a brisé une jambe et les deux genoux, et il est mort quelques jours plus tard des suites de ses blessures à l'hôpital de Quimper.
C'est une belle morale, ça.
C'est triste, hein. Donc voilà, mais c'est voilà. Donc cette personne-là, bien qu'on dise oh regardez, il est mort à Tevenek, ça fait partie de la légende. En fait, oui, il est bien mort à cause d'un accident sur un phare, mais non, il est mort à l'hôpital de Quimper en 1911. Et donc après l'automatisation du phare, hein, pour rappel. Donc voilà, absolument rien à voir. S'il fallait le préciser, personne n'est réellement tombé sur des couteaux. En tout cas, c'est pas dans les registres non plus. Il y a pas de gardien qui s'est vidé de son sang en tombant sur un couteau. Et il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est ces fameuses voix qui reviennent tout le temps, ces voix qui semblent venir des profondeurs, qui leur disent de fuir. Et bien en fait, dans les années 2000, il y a des plongeurs qui sont allés à Tevenek et qui ont découvert un passage sous-marin qui traverse le rocher à 20 mètres de profondeur. Et en fait, quand la marée est forte, le passage de l'eau provoque ces bruits étranges qui ressemblent à peu près à la manière dont on dit « va-t'en » en breton.
Wow.
Donc en fait, ces voix qui viendraient des profondeurs, en fait, c'est tout simplement ce mouvement d'eau qui se passe dans le passage sous-marin.
D'accord.
Et qui fait des bruits étranges.
Ah ouais.
Et donc, il y a un autre monsieur dont je vais te parler maintenant, qui s'appelle Marc Pointu, qui est le président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises. Ce monsieur explique aussi que voilà, il y a aussi les bruits des oiseaux, qu'il y a les bruits des, bah, des fracas des vagues contre les rochers, et que tout ça mélangé, quand on est tout seul, ça crée un univers sonore très étrange, quoi. Donc forcément, bah, quand on passe une nuit seul là-bas, on peut se dire que il y a peut-être des esprits, surtout quand l'histoire, surtout quand les légendes sont aussi tenaces, quoi, autour du lieu. On est préparé mentalement à essayer de voir ça. Mais Marc Pointu, lui, il sait que tout ça, c'est du folklore. Et il a décidé d'y passer 60 jours tout seul en 2015. Et en vrai, à part des milliers de cloportes de mer qui infestent la maison, il a rien vu. Ah. Il a dit dans des interviews qu'il a données après, il a même écrit un livre sur le sujet, qu'il n'a vu personne, pas de fantômes, mais qu'il a bien entendu des bruits un petit peu étranges, 3-4 nuits de suite, mais que pour lui, ces bruits ont forcément une explication rationnelle, c'est juste qu'il n'a pas trouvé quelle explication, mais qu'il y en a forcément une de rationnelle. Lui ne croit pas du tout au surnaturel. Et il y a un youtubeur dont j'avais parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Distorsion, chez Distorsion, qui s'appelle Mummy Twink, qui est un monsieur qui fait de l'urbex, qui est allé lui aussi avec Marc Pointu, il y a passé une nuit, et lui non plus n'a rien constaté d'étrange, quoi. Et si Marc Pointu va à ce point souvent sur le phare, et s'il y est allé 60 jours comme ça pour faire parler de lui, c'est parce qu'il veut réhabiliter le phare aujourd'hui, il aimerait bien récolter des fonds et en faire une maison d'artiste. C'est-à-dire aller, voilà, pouvoir aller passer une nuit ou quelques jours à Thévenec pour travailler sur son art. Donc c'est plutôt un beau projet que je ne peux personnellement que soutenir, car j'ai très envie d'aller écrire un bureau des mystères là-bas.
Tout en haut. Ah bah ouais, c'est une belle histoire, en effet. C'est une belle histoire qui a une belle fin et qui a du coup un niveau de mystère qui est assez faible maintenant.
Oui, aujourd'hui ce n'est pas très élevé parce qu'en fait, tout est explicable en fait. C'est des gens qui n'ont pas trop supporté la solitude, une explication donc géologique hein, avec cette voie sous-marine juste en dessous, les conditions météo, en fait voilà, ouais, tout est explicable et c'est pour ça que pour moi, on peut classer l'affaire, même si ça reste une très belle légende locale.
En effet, c'en est une. Eh bien, j'ai envie de dire, affaire classée.
Alors Thévenec, moi c'était une de mes histoires préférées personnellement, j'ai adoré l'écrire et je voulais qu'on profite justement de ce best-of pour saluer l'ambiance sonore qu'a fait Henri Michel sur cet épisode parce qu'on s'y croirait vraiment quoi.
C'est le moment de rendre hommage aux techniciens, aux petites mains de ce podcast, Henri Michel, qui fait toujours un travail de son...
D'orfèvre.
Eh oui, eh oui.
Ah oui, non, c'est vrai que là, sur ce passage, avec le côté la tempête, là, on sent la houle et tout, c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé, j'étais hyper content du résultat final. Enfin bon, c'est tout ça pour dire qu'on va passer bientôt à notre nouvelle destination, parce que cette année, Charles, tu nous as emmené dans un lieu très surprenant, où on aimerait vraiment pas passer nos vacances et encore moins vivre. Cet endroit pas très accueillant, c'est le village endormi de Kalachi.
Le mystère du village endormi. Il existe un village kazakh au milieu des steppes qui, depuis 2010, voit des dizaines de ses habitants s'endormir sans prévenir alors qu'ils se baladaient ou qu'ils étaient en train de travailler. Nous sommes donc à Kalachi, un petit village situé au nord du Kazakhstan, dans le district d'Ezil. Nous sommes donc dans le nord du pays, hein, comme je disais, au milieu des steppes, donc plutôt proche de la frontière russe. Il s'agit d'un tout petit village qui ne compte que 680 habitants, mais qui a une particularité locale assez impressionnante, hein, puisque le village voit ses habitants s'endormir brusquement alors qu'ils sont en pleine activité, qu'ils discutent avec leurs amis. Le mystère a débuté en 2010 et s'est amplifié à partir de 2013, sans pour autant qu'il y ait une explication qui soit donnée. Chose particulièrement étrange, ces crises de sommeil soudain semblent arriver par vagues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas isolé, il n'y a pas une personne dans le village qui à un moment donné s'endort et il se passe 3 semaines sans qu'il se passe rien. Non, c'est souvent par vagues. Les pertes de connaissances, puisqu'il s'agit quand même de vraies pertes de connaissances, sont assez conséquentes, hein, puisque certaines personnes pouvaient ne pas se réveiller pendant 2 à 6 jours. Et chose encore plus étrange, les personnes âgées et les jeunes enfants victimes de ces crises ont des hallucinations. Dire que des habitants prennent donc logiquement la décision de quitter le village puisqu'ils commencent à avoir peur. Et c'est le cas notamment d'une femme qui est partie de Kalachi, elle a une 30aine d'années, et sa jeune fille avait 4 ans. Et un jour, sa jeune fille s'est mise à pleurer en lui demandant pourquoi sa maman avait trois yeux, ou pourquoi quelque chose rampait sur le radiateur.
Ça, ça fait trop peur. Genre de vision d'enfer, c'est... ça me rappelle l'histoire que tu racontais sur Pont Saint-Esprit dans le numéro 0.
Ouais, c'est exactement, ouais, hyper exactement, flippant. Ouais. Et donc la petite fille ne comprend évidemment pas ce qu'elle voit, et du coup la maman décide, hein, vu que ce n'est pas le seul cas, non seulement de crise de sommeil, mais en plus d'hallucinations, elle décide assez logiquement de quitter le village. Prenant connaissance de ces faits, beaucoup de scientifiques sont allés sur place pour tenter de comprendre ce qu'il se passait. Et ils ont commencé à élaborer évidemment plusieurs théories. Et parmi ces théories émergentes sur les possibles raisons de ces soudains accès de sommeil, certains médecins avaient notamment mis en avant l'idée de la vodka frelatée. Alors la vodka frelatée, c'est pas une métaphore ou quoi que ce soit, c'est pas un nom funky, hein, c'est bien la boisson, la vodka, qui, si elle est impropre à la consommation, peut avoir l'effet d'un sédatif.
Et alors du coup, on a du mal à imaginer des enfants en train de boire de la vodka frelatée.
Exactement. C'est-à-dire que c'est là que la théorie est finalement assez rapidement abandonnée, c'est que certaines personnes, et notamment les jeunes enfants, ne présentaient pas de traces d'alcool dans le sang. Et même des adultes d'ailleurs, des adultes et des personnes âgées ne présentaient pas de traces d'alcool dans le sang. Donc c'est une théorie qui a été rapidement abandonnée. Autre théorie, celle d'un trouble psychologique, un genre de psychose partagée. Il faudrait qu'une grande quantité de ses habitants du coup aient été victimes de ces troubles et développent, disons, les mêmes symptômes, hein, ce qui semble assez peu probable. D'autant plus que quand cela arrive, c'est sur des communautés extrêmement fermées. C'est-à-dire que quand ça arrive sur des grands groupes, il faut que ce soit vraiment des gens qui ne vivent que en communauté, qui s'isolent du monde. Or là, il s'agissait d'un village qui est certes géographiquement éloigné, mais qui n'est pas absolument pas coupé du reste du monde. Donc il y a des tests bactériologiques qui ont été effectués, des tests viraux, des études de sol, des études d'air, des tests sanguins. Et finalement, première hypothèse peut-être plus crédible, ces tests ont porté les soupçons sur la ville fantôme de, et attention à la prononciation, Krasnogorsk.
Bravo.
Qui est, voilà.
On sent que tu l'as répété.
Qui est en fait,
exactement,
ouais, ça fait l'objet d'un entraînement, qui est collé au village de Kalachi. Et ce village, donc de Krasnogorsk, il a une histoire, puisqu'au plus haut des tensions de la guerre froide, Krasnogorsk était une zone très secrète. Il y avait à l'époque 6500 résidents qui travaillaient tous au même endroit, une mine d'uranium. En 1991, la mine a cessé d'être exploitée. Alors, du jour au lendemain, la ville s'est trouvée du coup absolument sans travail, donc les habitants ont complètement déserté la ville, et aujourd'hui, actuellement, la population est tombée à moins de 200 habitants. Donc c'est vraiment, ça a vraiment l'aspect d'une ville fantôme. Et une hypothèse, comme je vous le disais, un petit peu plus crédible, va émerger après étude de la mine et étude de l'air qu'il y a autour de la mine. C'est que l'uranium extrait contenait du radon. Alors, le radon, apparemment, de ce que j'ai compris, ce n'est pas radioactif, c'est juste l'évaporation d'un type de gaz qui viendrait de la mine d'uranium du fait qu'elle aurait été exploitée et qu'elle aurait été, mise à ciel ouvert. Un des gaz qui s'échappait de la mine d'uranium était du radon. Sauf que cette hypothèse a encore un petit problème. Puisque quand du gaz comme le radon est utilisé, en principe, c'est un monsieur anesthésiste qui, dans l'article du Monde dont est tirée cette histoire, était interviewé, qui disait que la personne se réveille normalement dans les 1 à 2 heures après qu'elle ait été en contact avec du radon. Or, comme je le disais ici, c'est plutôt sur des périodes de plusieurs jours. Alors finalement, comment on peut résoudre cette affaire qui a l'air assez insoluble et qui a en fait laissé les scientifiques pantois pendant des années, hein. Ça a commencé en 2010, les premières études ont été publiées, il me semble, il y a 2 ans, et c'est finalement, il y a quelques semaines, quelques mois je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'une autre hypothèse assez solide a vu le jour. Et elle n'était pas facile à trouver. Ce sont les autorités kazakhes qui ont sans doute percé le mystère, puisque la mine d'uranium donc laisse s'échapper en effet du radon, mais en quantité trop faible. En revanche, la mine, du fait qu'elle était abandonnée du jour au lendemain et qu'elle était, disons, laissée à ciel ouvert, a encore des effets sur l'environnement et l'atmosphère. Et des tests ont notamment révélé que lorsque le taux de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures augmente dans l'air autour de la mine, le niveau d'oxygène descend drastiquement dans le village. Donc, ce qui commence à pouvoir expliquer quelque chose. Et c'est notamment...
Les hallucinations, déjà, effectivement. Les hallucinations, les évanouissements. Oui. C'est vrai que le manque d'oxygène peut créer ce genre de choses.
Le manque d'oxygène, surtout s'il est remplacé avec du monoxyde de carbone ou des hydrocarbures qui, voilà, peuvent être multiples. Et c'est notamment Sergueï, là, encore attention au nom, Loukachenko, qui est le directeur adjoint du Centre National de Sécurité Nucléaire, qui a déclaré que le phénomène, et je cite, est déclenché par une combinaison de trois facteurs. Un, le manque d'oxygène, plus un excès de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures. Chacun, en fait, des trois composants, pris séparément, est à un niveau normal. Donc, en fait, pendant longtemps, il ne pouvait pas comprendre, comme il dit, la véritable origine de la maladie, parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas une maladie. On a tenté de l'expliquer comme une maladie, mais ce n'en est pas une. Ce sont des causes environnementales. Mais quand il y a une combinaison de ces trois facteurs, il y a ce qu'il appelle un effet synergique classique qui fait qu'il peut y avoir ces crises, et ça explique notamment le fait que ça a été par vague, puisque en fait c'est dépendant de l'environnement et de facteurs météorologiques. Si à un moment donné il y a de l'humidité ou ou des différences de température qui peuvent réactiver certains gaz de la mine, eh ben, on peut observer ce type d'effet et du coup d'où l'explication par vague. L'évacuation a du coup été ordonnée par les autorités et donc là c'est selon le Siberian Times, 68 des 223 familles ont déjà été relogées. Et les autres doivent être déplacés d'ici 2019. Donc j'ai envie de dire que le niveau de mystère est retombé aussi bas que le niveau d'oxygène de Kalachi.
Donc très bas, effectivement.
Donc très bas. Puisque,
oh, que c'est finement écrit, ça.
Puisque les autorités kazakhs ont vraisemblablement trouvé la raison, sans pour autant résoudre le problème. C'est-à-dire qu'ils vont sans doute être amenés à simplement déplacer le village.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, oui, comment tu fais remonter le niveau d'oxygène dans une zone entière
et ouais,
quand il y a un problème comme ça, c'est compliqué. Ouais, non,
et puis même, apparemment, la mine était quand même 6500 personnes qui travaillaient dans la mine. Elle avait plusieurs ouvertures. Ça doit être sans doute très difficile à boucher. Ils peuvent absolument pas le faire sauter. Ce serait trop dangereux. Du coup, j'ai envie de dire, pour nous, affaire classée, mais pour eux, il va falloir attendre jusqu'à encore 2019 avant que toutes les familles puissent être relogées.
Oui, malheureusement pour elles, effectivement.
De manière convenable.
Mais en tout cas, pour nous, en termes de mystère, le mystère est levé et l'affaire est donc classée.
Alors, Kalachi. Histoire un petit peu compliquée, parce que peut-être que c'est un village très sympa au final. Peut-être que. Peut-être que c'est un village très sympa, peut-être que les gens qui ont envie de partir en vacances mais ne parler à personne seront ravis de cette destination où le village est entièrement endormi. Mais oui, c'est bon, l'affaire a été plus ou moins résolue, hein, comme je le disais dans l'histoire. Le déplacement des populations, je crois, est toujours en cours, hein, cette année. Ils sont en train de continuer à déplacer les populations. Mais sans doute que les activités touristiques reprendront bientôt si vous décidez d'y aller.
Ouais, oui. Et pour terminer la liste des pires destinations de ces vacances, on va aller voir ce qui se passe dans un célèbre parc d'attractions. Ça a été une de vos histoires préférées, à vous, chers auditeurs, elle est pas mal revenue dans le sondage, et pour être franc, j'étais pas non plus tout à fait à l'aise quand je l'ai lue. L'histoire que je vais raconter maintenant, en fait, je l'ai cherchée volontairement sur Internet. Parce que, comme tu le sais, Charles, j'aime beaucoup Disneyland. J'ai, d'ailleurs, comme j'ai la chance d'habiter en région parisienne, j'ai pris le pass annuel de Disneyland Paris, donc j'y vais assez régulièrement.
Faut bien qu'il y ait un avantage à habiter en région parisienne.
Et oui, bah, ça fait partie des quelques avantages, effectivement. Et j'avais... en fait, il y a un syndrome Westward qui commence à se développer quand tu vas souvent dans le même parc d'attractions.
C'est que... Ah, s'il y a Dolores, moi je vais à Disney dessus.
Ça, on est un petit peu là-dedans, ça, tu deviens un peu comme l'homme en noir, tu veux savoir quels sont les secrets de Disneyland, est-ce qu'il y a des trucs qui sont cachés, est-ce qu'il y a des passages secrets dans le parc, est-ce qu'il y a des légendes.
Un game dans le game.
Exactement. Et bah justement, j'ai pu découvrir qu'il y avait un passage, pas secret, mais qui est très peu emprunté par exemple dans Disneyland, derrière Discoveryland, enfin ce genre de choses, je l'ai trouvé sur des blogs genre Disney secret, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des histoires inquiétantes qui se sont quand même passées à Disneyland, parce que quand même, ça c'est là depuis très longtemps, il s'est sûrement passé quelque chose. Et j'ai découvert, non pas une histoire vraie, mais une creepypasta qui est plutôt effrayante et que j'avais envie de raconter. Ça s'appelle Une nuit à Disneyland. Alors j'ai changé les prénoms pour respecter les gens et je vais te la raconter immédiatement. Alors le témoignage commence comme ça. Il y a 2 ans, mon pote Charles et moi, on avait essayé de rester à Disneyland après l'heure de fermeture. On voulait seulement prendre des photos, rien de bien méchant, on voulait juste pouvoir dire qu'on l'avait fait, vous voyez. On est simplement allé de WC en WC, de recoin en recoin, et on est arrivé à rester là jusqu'à ce qu'ils ferment les portails et que l'équipe de maintenance commence son travail. On a été vraiment surpris de pas se faire prendre. Ça en était presque étrange quand on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité. On est resté là assis un moment, caché derrière une pierre tombale pas loin du manoir hanté, et on a remarqué que c'était bien vrai, les noms des membres du personnel de Disney étaient bien gravés sur chacune des tombes. On a fini par prendre notre courage à deux mains, et on est parti rôder aux alentours. On croisait parfois un employé ou un garde qui faisait sa ronde, et on essayait de l'esquiver ou de se cacher. Ça a marché, mais seulement pendant une trentaine de minutes. Évidemment, on pouvait pas continuer à faire ça éternellement, et oui, on s'est fait prendre. Je veux dire, ils nous ont félicités pour avoir tenté et réussi, mais l'histoire s'arrête pas là. La première chose qu'on nous a dit quand ils nous ont pris, c'est « Vous allez nous enfermer dans le donjon ?» Et on s'est mis à rigoler. Le garde a rigolé aussi, on s'en sortait pas trop mal. Il nous a dit qu'on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture. Il nous a même félicité d'avoir réussi à rester aussi longtemps dans le parc. Puis il a dit qu'il allait nous emmener vers les cachots du parc pour une interrogation plus poussée. Alors on s'est mis en route vers Main Street. Puis on est descendu dans un ascenseur, tout droit vers l'enfer. Il y avait que 2 boutons dans l'ascenseur. Montée et descente. L'ascenseur s'est arrêté et on a emprunté un couloir immaculé qui embaumait la Javel. Il n'y avait aucune porte, de quelque côté que ce soit. Un couloir entièrement vide et uni. On a marché pendant ce qui nous a semblé une éternité, et plus personne ne parlait. Le garde nous a conduit vers un autre corridor. Cette fois-ci, il y avait plusieurs portes aménagées sur le côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté, en haut à droite. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital, pour être honnête. Pas tellement une prison. On est arrivé à la salle 1901, il y avait un unique bureau, avec 2 chaises, puis ils nous ont laissés seuls ici en fermant la porte derrière eux. On s'est assis sur les chaises comme des gamins obéissants et on a attendu notre tour, mais les gens ne sont jamais revenus. On a patienté 2 heures et on n'a vu personne. On commençait vraiment à s'impatienter, alors on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure. Aucun signe de vie. Rien. On a commencé à appeler, à demander s'il y avait quelqu'un, mais personne n'a répondu à nos appels. On a juste remarqué que les caméras de surveillance qui étaient placées au-dessus de chaque porte, mais il n'y avait pas l'air d'avoir la moindre âme qui vive à cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais comment on aurait pu savoir à ce moment que c'était le mieux à faire? Toutes les portes se ressemblaient. Toutes les portes avaient néanmoins un numéro propre. Mais ils n'étaient pas dans l'ordre, les nombres étaient dispersés, comme si les numéros avaient été attribués au hasard. On était complètement désorientés, on a marché le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait. On s'est dit qu'on devrait juste partir. Charles a dit qu'ils auraient juste dû nous interroger et qu'ils seraient sans doute revenus et qu'ils nous faisaient peut-être une blague et qu'ils nous attendaient dehors en rigolant. Mais les caméras au-dessus des portes avaient ce système de détection de mouvement, elles nous suivaient partout dans le couloir désert. Il y avait une petite lumière rouge en dessous de l'objectif qui clignotait toutes les secondes. On n'entendait pas un bruit, on se sentait observé, et il y avait juste notre respiration pour combler le silence. Et puis c'est arrivé. On a atteint le bout du couloir. Et à ce moment précis, les lumières se sont éteintes et on a entendu les autres portes. Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Ces putains de portes se sont ouvertes. Tout aligné le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas, et elles se sont mises à claquer contre le mur derrière elles. On est resté là, abasourdis, pendant 5 bonnes minutes sans savoir quoi faire. Alors on est retourné sur nos pas. On s'est mis à paniquer, on a été pris d'une envie de courir, on s'est pas concerté, c'était comme si à ce moment-là précis, on avait tous su ce qu'on devait faire, ce qu'on avait à faire. C'était l'instinct. Pendant qu'on courait à perdre haleine dans le couloir, on n'a pas pu s'empêcher de regarder à travers les portes ouvertes. Devant chaque ouverture, il y avait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, devant des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les personnages de Disney. C'était dément, on a crié aussi fort que nos poumons le permettaient. Je sais ce qu'on dit, faut pas se retourner quand on court, mais je l'ai fait. Ils quittaient leur cellule, ils nous suivaient. Ils couraient pas, ils se contentaient de marcher nonchalamment. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant. Presque comme s'ils savaient qu'on avait nulle part où aller. Je jure, et je le jure sur la vie de ma mère, et j'ai entendu se jouer la musique de It's a Small World, l'attraction avec les poupées, à travers un interphone. J'ai peur des poupées, et cette attraction m'a toujours fait flipper, et maintenant je les voyais, ces petites poupées mécaniques, qui se tenaient dans l'encadrement des portes alors qu'on passait. Les personnages en costume nous suivaient toujours. Les poupées, elles nous pourchassaient pas, Dieu merci. Je crois que j'aurais fait une attaque si je les avais vues nous suivre. Je suis plus sûr de combien de portes on avait dépassées à cet instant, ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune, mais je savais que ce couloir avait une fin et qu'on allait finir par sortir de là. Après une ou deux minutes de course effrénée, on s'est réfugié dans une pièce. Les bruits se sont arrêtés, mais on avait trop peur pour oser sortir. Au bout d'une quinzaine de minutes, Charles a fini par ouvrir la porte lentement, avec beaucoup de précautions. Il n'y avait pas un bruit. Plus rien semblait nous suivre, mais on voulait prendre aucun risque, alors on s'est mis à courir. On est entré dans le corridor d'avant, et les portes avaient disparu. Je n'ai jamais compris où elles étaient passées, mais j'étais content de plus les voir. On a couru jusqu'à l'ascenseur, on a pressé le bouton monter, et on s'est regardé, encore choqué par ce qui venait de se passer. Aucun de nous deux parlait. On a juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre, on est retourné à Main Street et on a couru vers le parking. La voiture n'était plus là, alors on a continué à pied sur la route, jusqu'à ce qu'on ait assez de réseau pour commander un Uber. Le Uber nous a reconduit à l'hôtel où on dormait, on a payé la course avec la carte bleue, on est allé se coucher. Et le lendemain, on a reçu un appel au bureau d'accueil de l'hôtel, alors on s'est présenté en bas. Il y avait des officiers de police qui nous attendaient. Ils nous ont dit que notre voiture avait été mise à la fourrière, on a dû payer l'amende. Ils nous ont rien demandé de plus, et on s'était pas embêté à leur dire ce qui nous était arrivé hier. On a juste payé l'amende, et on est rentré chez nous. Aujourd'hui, on fait comme si rien ne s'était passé. Mais j'oublierai jamais ça. Je suis pas revenu à Disneyland depuis.
Meilleure campagne de sécurité ever. Genre, t'as lu ça, et ben plus jamais. Je suis sûr que c'est un problème en plus. Le nombre de jeunes qu'il y a qui essaient de rester après les horaires de fermeture du parc, même moi ça m'a traversé l'esprit, ça me traverse l'esprit à peu près pour tout. C'est-à-dire pour le genre, je crois que un des rêves de mon père c'est de faire ça, mais au musée Grévin, parce que ça doit être hyper flippant d'avoir les statues.
C'est trop horrible.
Mais dans les musées, dans les parcs d'attractions, donc il doit y avoir des gens qui doivent le faire tout le temps. Et ça va être un gros problème de sécu pour eux, parce qu'il y a plein de recoins. Enfin, littéralement, si tu te caches à Disney, t'es pas retrouvé, quoi. C'est grand, t'as plein de recoins, t'as plein de
c'est
trucs.
Ça, et tu veux surtout pas que tomber sur un dingo en pleine nuit, quoi.
Ah ouais, non, c'est clair, si tu tombes sur des personnages déguisés, ça doit être tellement flippant.
Ah non, mais là, c'est ce qui m'a fait trop flipper dans cette histoire, c'est que je la lisais, tu sais, je la lisais tranquillou sur mon smartphone, et je vois le truc, les portes s'ouvrent, et là, il y a des Mickey, des dingos et tout derrière les portes. J'étais, oh putain, je suis mal à l'aise. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je la raconte ici. En plus, elle est pas hyper connue, alors je l'ai simplifiée, hein, parce qu'elle est très longue. Si vous voulez l'écouter, enfin la lire en entier, ça s'appelle Disney's Catacombs. Donc j'ai changé quelques trucs, normalement ça se passe à Disney, États-Unis.
Oui, n'y voyez aucun rapprochement avec, avec Charles.
Et ce n'est pas Charles, et d'ailleurs ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont 5, c'est un groupe de 5 personnes dans l'histoire originale. Mais là, comme on était tous les deux, je me disais qu'on allait là.
C'est une invitation, c'est-à-dire que tu veux qu'on vive ça ensemble, tu veux qu'on se fasse enfermer à Disneyland.
Écoute, la prochaine fois qu'on se retrouve tous les deux à Disneyland, je pense qu'on restera après la fermeture, et puis, et puis on verra s'il y a des Mickey et des dingos qui nous poursuivent en marchant nonchalamment.
Oh là là, t'imagines, des Jafar.
Oh, mon dieu, des Elsa de la Reine des Neiges.
Ah ouais, bah c'est un truc que tu peux faire, ça, quand t'arrives à t'échapper. Tu chantes libéré, délivré.
Elle marcherait derrière nous en faisant libéré,
délivré.
Ce best-of du Bureau des Mystères est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté.
Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille, et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @BDMlePodcast, sur Facebook, notre page Charles et Mathias, sur le site rivieraferraille.fr. Si je dis pas de bêtises, et sur toutes les applis de podcast, de Apple Podcast, Podcast Addict, Podcast, je sais pas quoi, Google
Podcast,
tout ce qu'il y a podcast à l'intérieur, vous pouvez, même SoundCloud, même s'il n'y a pas podcast à l'intérieur, ça marche aussi.
Nous, on se retrouve très bientôt pour notre dernier best-of de l'été, et d'ici là, continuez à passer de bonnes vacances.